Avant de prendre dimanche prochain le texte qui est un peu la devise de notre année, de cette année, je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir cette année, mais notre devise, on va faire un texte donc hors série ce soir, et je vous invite à prendre les Bibles, si vous voulez suivre le texte dans les Bibles, à la page 724 dans ces Bibles-là, et il s'agit du psaume 139. Le psaume 139. Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu connais et toutes mes voix te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira. Ta main droite m'empoignera. Si je me dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'étais fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, semblent impénétrables, que leur nombre est grand. Comment les compter? Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me réveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant. Homme sanguinaire, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi pour appuyer leurs projets criminels. Ils utilisent ton nom pour mentir, eux tes ennemis. Éternel, comment pourrais-je ne pas détester ceux qui te détestent, ne pas éprouver du dégoût pour ceux qui te combattent? Je les déteste de façon absolue. Ils sont pour moi des ennemis. Examine-moi, ô Dieu. Connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. L'autre jour, je lisais un article sur Europe 1 qui a revu sa grille au niveau des programmes. Et voici quelques citations qu'on trouve de la part du directeur et puis aussi le directeur de la programmation. Selon le directeur Richard Lenormand, la nouvelle grille doit remettre du muscle, apporter plus de lisibilité, introduire de la proximité. Et Nathalie André, directrice des programmes, on essaie de refaire une grille un peu plus dans l'attente des auditeurs. Europe 1 a toujours été une radio de solidarité, de proximité. La priorité, c'est de donner la parole aux auditeurs. Proximité, c'est un peu le mot-clé de cette nouvelle grille. Il faut retrouver, donner de la proximité. Et on voit par exemple des émissions comme Allô Europe 1, Parole de français, mais aussi Un psy vous écoute. Cette émission-là, elle était déjà présente, mais c'est ça qui est mis en avant parce qu'on sent que la demande est plutôt dans des émissions où on est à l'écoute des personnes, à l'écoute des gens. Et j'imagine que si on est honnête, chacun d'entre nous, on a une certaine attente d'être entendu, d'être écouté, d'être connu par quelqu'un dans notre situation et d'avoir des réponses à certaines de nos interrogations, peut-être de nos inquiétudes aussi. Mais où est-ce qu'on va se tourner pour trouver ce regard objectif sur notre vie? Un regard juste, équilibré. Vers qui est-ce qu'on va se tourner pour trouver quelqu'un qui nous connaisse parfaitement et qui a non seulement une idée des enjeux, des conséquences, mais aussi de l'avenir, tout simplement, et qui peut donner du sens, qui peut donner une direction à notre existence. Difficile de savoir quel est le contexte du psaume qu'on vient de lire. Certains pensent que c'est un psaume d'instruction où on a le psalmiste qui veut nous décrire qui est Dieu, qui nous parle du Dieu, qui sait tout, qui voit tout, qui est partout. Ou alors peut-être, pour d'autres, c'est un contexte d'accusation. Le psalmiste est accusé et il se trouve devant ses accusateurs et il se tourne vers Dieu qui, lui, peut l'examiner à fond, qui, lui, peut voir tout ce qui se passe, tous les tenants et les aboutissants, et qui peut avoir un jugement équilibré sur sa vie. Quoi qu'il en soit du contexte, ce qui ressort clairement, c'est que le psalmiste va effectivement se tourner vers un Dieu personnel, un Dieu qui le connaît profondément, parfaitement. Il s'en remet à sa connaissance pour trouver du sens et une direction. C'est avec ça que ça se termine. Mais en entendant ça, il y en a peut-être certains d'entre nous qui se disent, est-ce qu'on n'est pas simplement ici, comme dans ces émissions radio, à la recherche d'un Dieu qui nous sécurise, qui nous fait du bien? On est en train de se chercher un Dieu qui finalement répond à nos attentes, un Dieu d'amour, un Dieu qui nous connaît, un Dieu qui nous donne du sens à notre vie. Est-ce que c'est ça, un Dieu qu'on se projette en fait, qu'on s'invente? C'est intéressant de voir le plan de ce psaume. Est-ce que ça colle avec le contenu? Dans les versets 1 à 6, je vous suggère de voir un Dieu qui sait tout de moi. Un Dieu qui sait tout de moi. Et la réaction de David face à ce Dieu-là, c'est de vouloir se cacher. Ensuite, on a un Dieu, dans les versets 13 à 18, qui m'a fait, un Dieu qui m'a fait. Et la réaction, versets 19 à 24, c'est de vouloir se dévoiler. Mais la question qu'on peut se poser, c'est que si c'est un Dieu qu'on s'est construit, qu'on s'est imaginé, qu'on s'est projeté, est-ce que c'est naturel, comme première réaction, que de vouloir se cacher? Est-ce qu'on veut vraiment se cacher? Est-ce qu'on se croit en insécurité face à un Dieu qu'on s'est soi-même construit? Ça ne colle pas. Non, c'est plutôt ici face à Dieu tel qu'il est, justement. Alors qu'il le découvre, alors qu'il réalise à qui il a vraiment affaire, qu'on voit cette réaction. Ici, David, ce psaume, c'est un peu comme passer par le scanner, passer par une IRM. Il commence avec ces mots, « Éternel, tu m'examines et tu me connais » au verset 1. Et finit avec ces paroles, « Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. » Être examiné, être pénétré jusqu'au plus profond de notre être, jusqu'aux sentiments les plus enfouis, pour être évalué. Un peu comme un scanner, une IRM. Je ne suis pas votre médecin de famille, mais c'est quand la dernière fois que vous avez passé par le scanner, peut-être que vous n'êtes jamais passé par le scanner, mais comment est-ce que tout commence? Ben, on a des signes, des symptômes, peut-être vous allez chez votre médecin parce que vous prise de poids, des fatigues répétées des difficultés à vous concentrer de manière récurrente. Et vous allez chez le médecin et peut-être dans un premier temps, il va prescrire ceci ou cela. Dans un deuxième temps, il va peut-être faire une prise de sang, proposer une radio. Mais pour aller plus loin, si rien ne ressort, une IRM, un scanner, ça peut être ce qu'il prescrit. Et ici, il y a aussi cette profondeur dans l'évaluation pour permettre, au-delà du diagnostic, de trouver une direction, un sens. La différence ici avec le scanner, c'est que David réalise qu'il est examiné à tout moment, en permanence. Le Dieu qui sait tout de moi. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée, tu sais quand je marche, quand je me couche, et toutes mes voies te sont familières. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette connaissance de Dieu? On peut dire en tout cas deux choses. Première remarque, c'est que la connaissance de Dieu, elle est parfaite. Elle est parfaite. Il sait quand on se lève, quand on s'asseye, on marche, on s'arrête. Il sait même ce qu'on va dire avant qu'on le dise. Il sait comment on se comporte dans le présent et comment on va se comporter dans l'avenir. Elle est aussi étendue que ça, la connaissance de Dieu. Jamais pris de court, jamais surpris par une de vos réactions, par une de vos pensées, par une de vos paroles. Il sait tout, absolument tout, de vous, de moi. Connaissance parfaite. Nos états d'âme, nos états d'esprit, à tout moment dans la journée. Et la deuxième remarque qu'on peut dire de cette connaissance, c'est qu'elle est personnelle. Elle est personnelle. Ce n'est pas une connaissance lointaine, vague. Ce n'est pas comme le bureau des impôts qui a des informations sur vous, des informations assez précises sur vous, des informations assez privées, mais ils n'ont pas le nez dedans tout le temps. Et vous, vous êtes content qu'ils n'ont pas le nez dedans tout le temps. Et même ces informations-là, elles ne sont pas aussi étendues que celles de Dieu, mais elles ne sont pas personnelles, pas aussi personnelles que la connaissance que Dieu a de vous. Pas la connaissance d'un ordinateur, d'une banque de données, d'un Google, mais la connaissance d'un Dieu qui vous connaît personnellement, intimement. Il nous connaît profondément, parfaitement, personnellement, intimement. Et comment est-ce que David réagit à ça ? Eh bien, une première réaction, c'est l'émerveillement. Il est tout simplement émerveillé au verset 6 de voir cette connaissance de Dieu. Mais une réaction plus radicale vient ensuite. Où pourrais-je aller loin de ton esprit ? Où pourrais-je fuir loin de ta présence ? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Deuxième réaction, immédiatement après, c'est de vouloir se cacher, de vouloir fuir. Pour l'illustrer, un commentateur, Kidner, l'illustre de la façon suivante, c'est comme un enfant qui, quand vous rentrez dans la pièce, commence à courir. Pourquoi est-ce qu'il court ? Pourquoi est-ce qu'il s'en va ? À d'autres moments, il sera peut-être content de vous voir, il sera peut-être content de se jeter dans vos bras, mais là, il court. Pourquoi est-ce qu'il court ? Ça fait penser aussi à cet autre texte dans la Genèse où on voit Adam et Ève qui ont pris du fruit défendu et qui, quand Dieu vient à leur rencontre, se cachent, s'enfuient, se couvrent avec des feuilles. Pourquoi est-ce qu'ils se couvrent ? Pourquoi est-ce qu'ils se cachent ? Pourquoi est-ce qu'un enfant, quand on entre dans la pièce, court ? N'est-ce pas parce qu'il a honte ? N'est-ce pas parce qu'il sait que le regard qui sera porté sur ce qu'il est en train de faire, il ne le supporte pas ? Et c'est pareil avec chacun d'entre nous si on réalise vraiment à qui on a affaire, à un Dieu qui sait tout de nous. Une des tentations, ça pourrait être de vouloir se cacher, de vouloir fuir. Et peut-être vous vous dites, non, moi ça va, moi j'ai rien à me reprocher, moi j'assume, je dis tout haut ce que je pense tout bas, je suis prêt à être évolué, j'ai rien à me reprocher. Imaginez un instant qu'on organise une projection chez vous, une projection de quoi ? Eh bien, de vos pensées les plus enfouies, les plus croustillantes de votre semaine. Tous vos proches sont réunis, on s'installe, il y a du coca, il y a des boissons, il y a des choses à manger. Et qu'est-ce qu'on va regarder ? On va regarder vos pensées les plus secrètes. Et tout le monde se réjouit de savoir, on va enfin savoir ce qui se passe dans sa tête. Moi, je sais que si on projetait certaines choses, certaines séquences, et des choses dont j'aurais honte, des jalousies honteuses, des jugements hautains, des critiques injustifiées, des choses dont j'aurais honte, et je suis sûr que chacun d'entre nous, on aurait honte de certaines choses. Et face à un Dieu tel que celui-là, qui voit tout, qui sait absolument tout de nous, une des réactions, c'est de vouloir se cacher, de vouloir fuir. Qu'on aime un enfant qui veut se cacher. Mais fuir où ? Parce que David évoque les endroits les plus lointains, les plus inaccessibles. Le séjour des morts. Dieu ne peut quand même pas être là. Mais il y est. Les confins de la mer, ce qui paraissait le plus lointain, un lieu de chaos aussi. Dangereux, Dieu ne peut quand même pas être là, et s'il y est. Dieu ne peut pas être dans l'obscurité, les ténèbres, mais il arrive. La nuit se change en jour, les ténèbres deviennent lumière. David recherche, ou imagine les endroits les plus reculés, les plus lointains. mais Dieu est présent partout. Et comment est-ce que vous réagissez en entendant ça, en entendant que Dieu sait tout de vous? Quelle est votre réaction en entendant parler d'un Dieu qui sait absolument tout de vous et qui est partout? Il n'y a pas d'endroit où vous pourriez vous rendre qui soit inaccessible, pas de lieu qui soit réellement ténèbre où il ne puisse pas faire briller sa lumière. Comment est-ce que vous réagissez? Truman Show, c'est un film qui est sorti en 1998. Et c'est l'histoire d'un show de télé-réalité. Ça, c'est le thème du film. Truman ne le sait pas, il est né sur ce plateau, c'est un gigantesque plateau, et des millions de téléspectateurs le suivent, mais lui, il ne sait pas qu'il est sur ce plateau de télé-réalité. Il est observé, il y a des caméras un peu partout, mais toutes les personnes autour de lui sont des acteurs, tout est décor autour de lui. Et à un moment donné, il va le réaliser et il va vouloir essayer de fuir ce plateau. Il échoue une première fois, mais il s'y reprend une deuxième fois. Et même s'il a peur de l'eau, il est prêt à prendre un voilier pour s'enfuir. Et le producteur de cette émission voit Truman dans tous ses déplacements. Et même sur le bateau, il y a une caméra qui le suit. Certains critiques de films ont relevé le numéro qui est sur la voile, numéro 139. Allusion à ce psaume, « Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. » Et alors, lorsqu'il arrive au bout du plateau, il va avoir comme cet échange avec le producteur de l'émission, qui a une voix off, comme sur un grand plateau, qui ressemble un peu à la voix de Dieu. Et je ne sais pas exactement ce que le réalisateur du film essaie de communiquer par ce film. Mais jusque-là, on pourrait avoir l'impression que Dieu est un peu comme ce producteur télé qui veut nous contrôler notre vie, cacher la vérité, cacher la réalité, ou alors un peu comme un voyeur. Jusque-là, on pourrait avoir cette impression-là. Mais il y a un petit fait surprenant. Plus tôt dans l'émission, il a rencontré une fille qui l'aimait et qui voulait le sortir de cette émission. Elle est devenue gênante, elle a été exclue du plateau. Mais alors qu'il y a cet échange entre Truman et le producteur, on a d'un côté une voix en haut-parleur avec ce producteur qui veut convaincre Truman de rester sur le plateau. Et on a cette fille devant son poste de télévision qui murmure une prière. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande à Dieu, semble-t-il, d'aider Truman à avoir le courage de sortir du plateau. Qui est Dieu? Qui est Dieu pour vous? Est-ce que c'est celui qui veut contrôler votre vie et qui veut vous cacher la vérité, cacher la réalité, comme ce producteur TV, qui veut vous garder dans un enclos? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui, effectivement, nous connaît parfaitement, tous nos faits et gestes, qui est juge de tous nos sentiments, qui les évalue jusqu'au plus profond de notre être, mais qui en même temps soutient cette existence et nous permet de faire un pas qu'on n'arriverait pas à faire seul? C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient, et sur ton livre était inscrit tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Dieu m'a fait. Pas seulement un Dieu qui sait tout de nous, un Dieu qui est partout, mais un Dieu qui est à l'origine de notre existence, qui connaît tous les traits de notre personnalité, parce que c'est lui qui nous a fait. C'est lui qui en est l'auteur. Même au stade embryonnaire, dans le fœtus, c'est lui qui soutenait notre existence, le créateur de notre personne, et celui aussi qui connaît toute notre vie de A à Z, comme une histoire dont il est l'auteur et dont il connaît déjà la fin. Même les circonstances les plus difficiles, ce qui paraît le plus absurde, il le connaît parfaitement. Souverain surtout, c'est vrai. Et ces versets le disent. Et en même temps, une souveraineté qui est respectueuse de notre personne. Il ne nous force pas à l'aimer. Même s'il sait que c'est se tirer une balle dans le pied que de le rejeter, il ne nous force pas à l'aimer. Sa souveraineté s'exerce de manière respectueuse de notre personne. Mais comment est-ce que David réagit face à cette révélation de Dieu? Ben comme la dernière fois, il y a dans un premier temps l'émerveillement, et après cela, eh bien, il se dévoile. Il se dévoile des sentiments les plus profonds qu'il a. « Ô Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant, homme sanguinaire, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi pour appuyer leurs projets criminels. Ils utilisent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, comment pourrais-je ne pas détester ceux qui te détestent? Ne pas éprouver du dégoût pour ceux qui te combattent. Je les déteste de façon absolue. Ils sont pour moi des ennemis. » Qu'est-ce qui se passe là? On a la peine à le mettre avec le reste. On a presque envie de dire, mais David, doucement, doucement, calme-toi, ou dis pas des choses pareilles. Et pourtant, c'est bien ce qu'il fait. Il s'indigne de ceux qui s'en prennent à la vie, verset 19, des hommes sanguinaires, meurtriers. Il vient de parler du Dieu qui est l'auteur de l'existence, le créateur de sa propre vie. Et là, il s'indigne de ceux qui veulent la supprimer, de ceux qui s'en prennent à Dieu ou qui utilisent son nom de manière irrespectueuse. Et finalement, est-ce que la colère, ce n'est pas légitime face à ceux qui veulent supprimer l'existence de quelqu'un et peut-être celle, la vie de l'auteur? L'indignation, est-ce que ce n'est pas une réaction normale face à une vie qui est supprimée? Il dévoile des sentiments profonds. Il se met à nu devant ce Dieu-là qui est à l'auteur de l'existence. Maintenant, et si on essayait de prendre un peu de recul? Parce qu'on a dit que devant un Dieu qui sait tout de lui, qui sait tout de nous, la première réaction, c'est de vouloir se cacher, de vouloir fuir. Et ici, devant le Dieu qui l'a fait, il se dévoile. Il s'indigne des injustices commises par d'autres. Mais comment est-ce qu'on peut faire les deux? Comment est-ce qu'on peut à la fois devoir se cacher, vouloir se cacher parce qu'on sait qu'on a commis des choses qu'on ne devrait pas avoir, qu'on ne devrait pas commettre, et comment est-ce qu'on peut s'indigner des autres? Après tout, un David, il a des choses à se reprocher aussi, non? Il a commis un meurtre aussi. Le mari de Bathsheba, il l'a fait mourir, non? Et d'autres aussi. Comment est-ce qu'il peut s'indigner simultanément et en même temps réaliser que lui-même a des choses à se reprocher, devoir se cacher? Il est inspiré pour écrire ce psaume, on peut déjà dire cela, mais c'est vrai qu'il y a une tension et on a besoin de quelqu'un qui va pouvoir entrer dans cette tension pour la résoudre. Quelqu'un qui peut justifier ces deux attitudes. Quelqu'un qui peut nous aider à comprendre. Eh bien, quelqu'un d'autre, un descendant de David, est lui aussi passé par ce grand scanner. Quelqu'un d'autre, à la suite de David, est passé par ce scanner. Pensez à cette déclaration que Jésus a eue au début de son ministère et par la suite sur le mont de la Transfiguration. La déclaration du Père à son sujet, c'est quoi? Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai toute mon approbation, qui a toute mon approbation. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Quand sa vie est examinée à fond, jusqu'au plus profond de son être, la déclaration est toujours la même. Il a toute mon approbation. Et quand viendrait pour lui le moment de crier à l'injustice face à des criminels qui veulent le tuer lui, le juste, le parfait juste, alors qu'il aurait tous les droits de crier à l'injustice, qu'est-ce qu'il crie? Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Exactement l'inverse. Il n'a pas à fuir le regard de Dieu. Il est juste. Et en même temps, il crie, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? Eh bien, c'est pour nous permettre à nous de pouvoir passer par le scanner de Dieu, d'être évalué de fond en comble et de ne pas avoir peur de son regard, de pouvoir même s'entendre dire « Tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée. » Parce que toute personne qui reconnaît la beauté de ce que Jésus a fait, toute personne qui reconnaît honnêtement ses fautes devant Dieu et toute personne qui reconnaît que Jésus est entré dans cette tension-là pour prendre nos jugements sur lui, Cette personne-là, et on le célèbre avec la scène, cette personne-là peut se savoir fille et fils de Dieu, examinée à fond et pourtant aimée de Dieu. S'il est possible aujourd'hui de se placer sous le regard de Dieu, c'est parce que Jésus a pris notre jugement sur lui. Comme application à ce psaume, qu'est-ce qu'on peut retirer? Peut-être il y a deux choses. Si on a vraiment reconnu qu'il est entré dans cette tension pour la résoudre, eh bien on n'aura plus envie de se cacher. Pierre, la première réaction quand il voit Jésus qui accomplit une pêche miraculeuse devant lui, sa réaction de base, c'est le recul. « Retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Mais après la résurrection, alors qu'il l'a renié trois fois, quand il sait qu'il a affaire à Jésus, eh bien, il plonge, il va à sa rencontre, il veut s'approcher de lui. Si on a réalisé ce que Jésus a fait pour nous, qui il est vraiment, eh bien, on n'aura plus envie de fuir, de se cacher, mais on aura à reconnaître humblement nos fautes devant lui. Deuxièmement, ce qu'on peut dire par rapport à cela, c'est que si on s'indigne contre le mal, si on s'indigne contre ceux qui commettent le meurtre, et il y a vraiment un positionnement à avoir vis-à-vis d'injustice, mais on le fait en sachant que nous-mêmes, on n'a pas été traités selon nos injustices, selon ce que nous méritions. Parce que son Fils a pris notre condamnation. Et finalement, face à un Dieu qui sait tout de nous, face à un Dieu qui nous a fait et qui connaît toute notre existence, à qui on peut faire confiance, eh bien, si on faisait cette prière avec laquelle David termine, « Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Amen.